Et on va rejoindre Bernard Thomasson et les équipes de France Info sur place à Berlin à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Bernard, vous êtes avec un jeune Allemand qui n'a pas connu le mur.
Oui, avec Corbinian Rücker-Bauer qui est à nos côtés et qui est un jeune homme de 23 ans qui est un ambassadeur de l'OFAJ. On parlera tout à l'heure de cet office franco-allemand pour la jeunesse. Alors que la soirée de fête se prépare à la porte de Brandenburg, la chancelière Angela Merkel vient d'arriver sur place et le concert tout à l'heure sera la phase la plus importante de ces cérémonies. Corbinian Rücker-Bauer, vous n'avez jamais connu le mur, donc 23 ans, évidemment la chute du mur non plus. Comment cette phase de votre histoire nationale vous a-t-elle été enseignée?
Bon, à l'école, on a quand même beaucoup parlé de cette période. On a aussi traité tous les débuts avec le blocus de Berlin. Et c'était quand même des chapitres passionnants pour moi, qui étaient énormément intéressants pour moi. Et on a aussi traité toutes les questions de cette époque de la guerre froide. Après, on a aussi parlé de la réunification. Mais il y a aussi des chapitres qu'on n'a pas énormément traités. Par exemple, tous les problèmes qu'il y avait après toutes les difficultés qu'ont vécu les Allemands de l'Est avec la Treuhand, l'organisme qui a
géré les entreprises pour relancer l'économie en quelque sorte. Juste avant de parler de l'après-mur, qu'est-ce qu'on vous disait sur l'histoire avant le mur? On vous a parlé des deux Allemagnes. Quelle image avait par exemple la RDA dans l'éducation des jeunes Allemands de l'Ouest? Des jeunes Allemands tout court d'ailleurs.
Oui.
Quel lapsus.
Bon, nous avons parlé des difficultés qu'ont dû rencontrer les Allemands de l'Est et avec cet État qui était un système autoritaire, une dictature. Par exemple, avec la Stasi, la surveillance et... Voilà,
vous parlait surtout de ça, le côté par exemple solidarité de ce peuple, le côté plein emploi, les choses un peu positives. Vous étiez enseigné ou pas trop?
On a parlé de ces faits aussi, pas énormément. On n'a pas parlé des aspects positifs. C'est vrai, c'était surtout les aspects un peu négatifs. Et tout ce qui était positif a été relativisé. Par exemple, qu'il n'y avait pas de chômage. Mais pourquoi il n'y avait pas de chômage? Parce que c'était pas un système efficace, disons. C'était ça qui a été mis en avant.
Nicolas Fenchard, je me tourne vers vous, toujours en votre compagnie depuis ce matin, auteur de plusieurs livres, Le pays disparu et Urbex, un très beau livre sur les traces dont on reparlera tout à l'heure, les traces de la RDA. Mais alors c'est intéressant ce que nous dit Corbinian, c'est-à-dire que le vainqueur écrit toujours l'histoire en quelque sorte. Vous qui êtes historien.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a eu très vite, on a écrit un grand récit. Il fallait expliquer aux Allemands ce qui s'était passé. Et donc, il y a eu un grand récit. Ce grand récit allemand, il était très simple. C'est qu'il y avait une démocratie libérale qui n'était pas parfaite, mais qui était le modèle. Et à côté, une vilaine dictature oppressive qui, en plus, s'était abîmée dans l'échec économique. Donc, un peu un portrait en noir et blanc, dont l'Allemagne subit un peu les conséquences aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, un miracle dans l'histoire allemande. C'est-à-dire que ces deux Allemagnes se réunifient et ça doit aboutir à une forme de démocratie. Heureuse. Donc il y avait un peu une légende rose qui s'est bâtie et qui évidemment a eu pour effet aussi de jeter sur la RDA toujours un regard très négatif. On le voit bien par exemple au musée de l'histoire à Bonn, où les deux histoires sont racontées en parallèle, mais elles sont racontées en noir et blanc. Il y a toujours évidemment l'Allemagne de l'Ouest qui se développe, qui devient une démocratie, et puis le stalinisme, la propagande, tout est toujours mis sous le sceau de la propagande et de la dictature, ce qui est bien sûr une réalité, mais qui n'est pas la seule de l'Allemagne de l'Est.
Vous parlez de musée, le musée de la RDA est l'un des plus visités ici à Berlin, est-ce que ça vous étonne?
Non, parce que je pense que, on a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs mémoires de la RDA qui sont liées à la guerre froide, qui ont une dimension internationale aussi. C'est-à-dire que les gens vont voir le musée de la RDA, bien sûr pour voir l'histoire de la RDA, mais c'est aussi un symbole de la guerre froide, c'est un symbole aussi de ces années qui sont closes. Et en plus, c'est un musée qui est extrêmement vivant et interactif, puisqu'on peut toucher, se rendre compte des choses.
Par exemple, Corbinian, ça vous a intéressé? Vous êtes allé voir ce musée de la RDA?
Non, je n'y suis pas allé parce que les gens que je connais qui sont allés, ils n'ont pas été très convaincus ils n'ont pas trouvé très très bien fait ce musée. C'était un peu de manière un peu populaire, disons. Je ne sais pas comment décrire exactement. C'était bon, ils n'ont pas
manque de pédagogie, apprécié. Peut-être trop dans le gadget.
Un peu un musée kitsch,
Exactement ça.
Nicolas Hofenstadt, comment l'histoire doit être transmise? Parce que c'est ça la vraie question. Le passé, c'est le passé, la douleur du passé, tout ce qui a été le nazisme, le bloc, les deux blocs, le mur, etc. Mais aujourd'hui, pour les jeunes comme Corbinian et comme ceux qui viennent derrière.
Alors, l'Allemagne, il faut le dire aussi, je la décrivais avec son grand récit un peu lénifiant, hein, d'une forme de miracle allemand qui, de deux Allemagnes divisées, conduisait à une unité heureuse. Mais c'est aussi un pays qui fait énormément de travail sur le passé. Il y a énormément de forums, de discussions, d'expositions. Donc, c'est sans doute un pays qui discute le plus de son passé dans le monde entier, l'Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, le travail est fait. Alors, il faut pas être normatif. Il y a plusieurs manières d'aborder le passé. Mais moi, je pense qu'il y en a une qui est quand même toujours très importante. C'est de ne pas imposer un récit ou un roman unique qui finalement devrait s'imposer à tout le monde. Parce que là, évidemment, on exclut toujours certains qui ne se retrouvent pas dans ce roman. On oblige ceux qui ont une histoire un peu compliquée à se couler dans un moule. Et donc, les grands récits nationaux, les grands romans nationaux, que ce soit notre roman à nous, le roman national français dont on a beaucoup débattu, ou ce récit allemand, je crois que ce sont des choses dangereuses. Il faut au contraire que l'histoire reste toujours quelque chose d'ouvert et qu'on puisse discuter. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans nos débats autour de l'unification. Ce que demande un certain nombre d'élus de l'Est, c'est qu'il y ait une discussion. Ils ne demandent pas un discours unique sur l'Est, ils disent il faut revenir sur cette période, il faut que les Allemands puissent s'exprimer, il faut qu'ils puissent dire leurs ressentiments, les difficultés qu'ils ont vécues. Donc moi, je trouve que la notion de travail sur le passé est quelque chose d'important. Il faut que les choses soient ouvertes, qu'on puisse en discuter dans l'espace public, et surtout que les différentes expériences, alors là, c'est vraiment très important pour les Allemands de l'Est, puissent s'exprimer.
Corbinian, vous vous intéressez à d'autres phases de ce roman, la RDA vue d'un autre côté ? Aujourd'hui, vous cherchez des choses.
Oui, c'est tout à fait intéressant. Oui, là, par exemple, je suis en train, dans le cadre de mes études, je suis en train de faire des petites recherches pour une présentation sur, par exemple, le chapitre de la Treuhand, de la privatisation de la RDA et les problèmes qu'il y a eu après cette réunification glorieuse qu'on fait aussi avec une bonne raison qu'on l'a faite. Mais il faut aussi parler, des aspects un peu. Qui sont difficiles. Il faut toujours voir les deux côtés, quoi.
Vous êtes aussi ambassadeur de l'OFAJ. Juste un petit mot sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ça sert à quoi ?
Oui, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est un outil qui était créé en 1963 avec le traité de l'Élysée. Traité de l'Élysée, pardon. Il est question de vraiment renforcer la coopération franco-allemande et vraiment de transmettre des compétences pour l'Europe et aussi de susciter de l'intérêt pour la langue du partenaire
mais
et aussi
on aide
la culture.
On aide les jeunes, il faut donner de l'argent, c'est ça un peu l'idée.
Exactement,
aussi.
Exactement.
Les jeunes qui veulent aller voyager.
Il y a aussi l'OFAJ organise énormément de choses, de partenariats. Il organise par exemple aussi l'assistance aux commémorations des jeunes franco-allemands. Donc c'est une immense organisation qui permet quand même de rapprocher les deux jeunesses. Donc c'est vraiment une œuvre franco-allemande qui a une importance considérable pour les jeunes.
Merci.
Et
oui.
Je voulais juste ajouter ça. Il y a chaque année, il y a 200 000 jeunes qui peuvent vraiment profiter de
l'Office franco-allemand.
Par exemple, ils ont joué un rôle important dans la commémoration de la Grande Guerre.
On n'a plus le temps. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas Offenstadt, et merci à Corbinian Rucker-Bauer d'être passé par France Info. À vous Catherine, si vous êtes pressée.
Mais non, pas du tout. C'est passionnant ce que racontent vos invités. On vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à 19h10, Bernard Thomasson en direct de Berlin.